le seul rôle que peut avoir le notaire, et je fais la même chose hein, si j'ai la place, c'est de réunir un certain nombre de propositions, de regarder lesquelles sont conformes à un cahier des charges ou pas, de dire peut-être celle-ci est plus intéressante que celle-là, mais ça ne peut jamais être au notaire de prendre la décision, si vous voulez. C'est le client qui décide, nous on est là pour aider, pour assister, pour rédiger, mais certainement pas pour décider à la place du client. Et je ne pense pas que les clients aient donné pouvoir à Fontvieille, je vais lui le projet, mais je ne m'avance pas trop en vous le disant, c'est pas elle qui tranchera, même si on vous le dit. C'est peut-être pour se protéger un peu qu'ils vous disent ça. Elle, je pense qu'elle ne peut pas avoir d'autre rôle que de synthétiser et de présenter, mais certainement pas de trancher.
Okay.
Voilà. Donc, je vais quand même me rapprocher de Yves Fontvieille de nouveau pour savoir un peu ce qu'il en est et où on en est. Parce que l'autre fois, 3 jours avant la procédure du 30 septembre, elle n'était pas au courant qu'il y avait une date.
Oui,
voilà.
Vous l'avez eu personnellement?
Oui.
Et en fait, donc là, donc ça c'est les deux-là qui se réunissent le 30
oui.
septembre, le 21 novembre, ça sera la fondation elle-même. Et bon, on a bien compris qu'en fait, quand la fondation décidait des choses qui ne convenaient pas aux Oblats, les Oblats...
Ils se demandaient tout. Ouais,
voilà, mais voilà, ils décidaient, enfin, décidaient à sa place. Hein, c'est un peu une sorte de façade pour... Mais au niveau Fontvieille, apparemment, d'après ce qu'on a compris, c'est la partie du conseil d'administration de la
fondation. C'est possible qu'elle en fasse partie, si vous voulez. Mais normalement, c'est pareil, même si elle en fait partie...
C'est pas elle qui décide.
Non, un, c'est pas elle qui décide. Et deux, si elle veut respecter les règles déontologiques des notaires, et je pense qu'elle le fera, si le moment où on prend part au vote là-dessus, elle devrait s'exclure du vote. Parce que sinon, elle n'a pas le pouvoir pour rédiger les actes derrière. Elle est partie prenante, si vous voulez.
Voilà.
Donc elle ne devrait pas participer au vote. Et même normalement, le fait de participer au conseil d'administration, c'est presque un peu gênant pour elle de rédiger les actes derrière. Il y a un conflit d'intérêt quelque part. Donc je vais essayer d'éclaircir ça avec elle exactement, parce que ça me paraît pas très clair.
Très bien. Parce qu'en fait, nous, donc, on a une réunion par semaine, plus donc certains week-ends. Donc hier, on s'est réunis toute la journée, encore pour travailler donc, sur la partie statut, ce qu'on voulait vraiment, etc. Mais on a aussi pris un temps pour discuter un petit peu de retour là, qu'on avait eu par mail et par téléphone de tout l'atelier. Et donc, il y a quand même une grosse inquiétude du groupe qui nous a chargé un petit peu de vous demander ce que vous en pensiez par rapport à ce comportement où ils changent sans arrêt de... Enfin, entre ce qu'ils nous annoncent et ce qu'ils font, il y a toujours un décalage. L'immeuble n'a jamais été mis en vente, officiellement. Enfin, nous, on a eu l'information par un autre groupe qui avait été en contact avec eux par le diocèse. Les promoteurs, on ne sait pas comment ils ont été mis au courant.
Parce que, il y a toujours quelqu'un qui sait.
Voilà. Mais on ne sait pas, en plus, bon, on a un petit peu du mal à croire qu'ils soient en train de nous manipuler depuis le début et qu'il n'y a aucune offre en face, mais disons, est-ce que vous pourriez, même si ce n'est pas vous le répéter, mais au moins vous rassurer en ayant des informations par la partie affaires,
oui, par contre, je ne les ai pas aujourd'hui, si vous voulez. L'autre jour, j'avais parlé avec le père Le Châtelier assez longuement pendant la visite. Ça s'est très bien passé, si vous voulez, mais il est resté très dans le général. On a parlé de tout et de rien, hein, mais je pense, lui, personnellement, on voit le projet comme un de sympathie. C'est et je pense que c'est vrai, en plus, parce que fondamentalement, ça leur correspond assez bien, voilà. Et je pense qu'à égalité de prix, en tout cas, ils tendraient à donner la préférence à quelqu'un comme vous plutôt qu'à un promoteur pour un projet qui leur paraît plus sympathique. Voilà. Après, je vais me rapprocher quand même de nouveau de Yves Fontvieille, absolument pour l'avoir. Je vous communique pour savoir. J'ai un peu tendance à penser qu'il veut éviter les pressions, vous voyez. Je ne sais plus qui, l'autre jour, de l'autre groupe aussi, avait demandé au père Le Châtelier s'il pourrait rencontrer.
Oui.
Voilà.
Là, c'est le coup de téléphone qu'on a eu donc, à la suite de la réunion du 30. Il a dit finalement qu'ils avaient tout transmis à Maître Millet et qu'il ne voulait pas qu'on rencontre le.
Voilà, ça m'étonne
le
pas.
Le président de la fondation, donc ça m'étonne pas. Aller à Paris pour.
Voilà. J'avais entendu quelqu'un qui lui en parlait, voilà. Je l'avais bien senti un peu bloqué sur l'affaire. J'ai dû le mettre, moi, dans le courrier de mémoire, etc., pour se relier en fait, c'est à présenter le projet. Je pense qu'il fallait le mettre, c'est bien. À mon avis, ils veulent pas être gênés, entre guillemets, ils veulent pas rentrer dans ces considérations-là, ils veulent le traiter d'un peu mal et pas être embêtés par ça. Voilà, recevoir du monde toutes les 3 minutes. C'est pour ça qu'ils bottent en touche. Au moins en apparence sur le notaire. Mais fondamentalement, ça ne peut pas correspondre au rôle du notaire de trancher à leur place. Donc, je vais m'en rapprocher quand même. Je ne pense pas à moins qu'il y ait un mandat de négociation qui est défilé à la vue, mais ça m'étonnerait franchement. Voilà. Donc, Je vais prendre pour savoir. Ce qui m'a, la seule chose qui m'a un peu surpris dans le mail, moi, c'était de dire que le cahier des charges nous serait transmis. Comme si la proposition qu'on avait faite était encore pas tout à fait conforme à un cahier des charges qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc ce qui m'a un peu étonné. En même temps, je pense qu'on pourrait nous demander de plus que ce qu'on a mis là. On n'a pas de conditions responsives. Donc il y a un moment où, à part proposer un prix et dire qui on est, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc, mais je pense que c'était un mail un peu générique. À mon sens, ils ont voulu botter en touche pour s'isoler un peu, voilà. Et pour être, ne pas être harcelé régulièrement, que ce soit par vous, par les promoteurs d'ailleurs. Voilà, je peux me tromper, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu.
D'accord. Donc un petit peu de questions connexes, donc on s'est aussi interrogé hier sur est-ce qu'on avait encore une carte à jouer pendant cette période où
je vais essayer de savoir.
avant le 21 novembre. Donc.
C'est ce que je vais essayer de savoir. En même temps, c'est paradoxal parce qu'il nous dit c'est le notaire, mais il y a quand même les échéances du 21 novembre avec la réunion de la fondation. Vous voyez, donc, je connais un peu Audi et puis nos pères sont, se connaissent bien. Donc voilà, je vais essayer de savoir un peu comment ça se passe. Mais voilà. Dès que j'aurai des informations, je vous les communiquerai tout de suite. Donc je ne vous garantis pas de l'avoir immédiatement parce que je sais qu'elle est un peu bousculée, un peu chargée. Mais elle me rappellera.
Okay.
Dès que j'ai eu, je vous informe. Okay. Un peu sur toute la tendance, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, quel est son rôle, quelles sont les optiques, et quelles sont un peu les tendances actuelles, et comment ils pensent sortir de l'affaire, et dans quel délai.
Ok, très bien, oui, parce que ça nous rassurait aussi de savoir qu'on n'est pas parti pour encore avoir un report après le 21 novembre, et encore avoir. Il y en a qui commencent à vraiment s'user.
Je le pense. Alors, pareil, je ne pense pas que le Paris Télé décide de tout.
Oui,
j'avais un peu évoqué le problème des délais avec lui, en lui faisant quand même ressortir qu'effectivement, l'année 2012, va être certainement un peu difficile au niveau de l'immobilier. Et que pour eux, il est certainement, très très certainement, préférable de vendre maintenant plutôt qu'au mois de juin prochain. Parce qu'au mois de juin prochain, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de promoteurs sur les listes. Dans les certaines blocs, ça va faire un peu comme ça a fait en 2008, tout le monde, les promoteurs s'enflamment sur les projets, ils abandonnent tout en route parce qu'il n'y a plus de marché. Et là, on sait très très bien qu'on va avoir une dépression importante de février à septembre, si vous voulez, prochain. Donc, ils en avaient conscience, lui-même l'a confirmé, si vous voulez. Mais après, je suis pas sûr qu'il fasse tout là-dedans et qu'il décide de tout. Il avait le sentiment, effectivement, qu'il valait mieux vendre vite maintenant que dans un an.
C'est peut-être quand même un faveur. On a évoqué, je vais en parler peut-être quand même très rapidement pour savoir si c'est complètement délire en fond ou pas, mais hier, dans nos petits retours de discussion sur l'éventuel ou les éventuelles cartes à jouer, on avait évoqué la possibilité de commencer déjà à réunir des fonds, éventuellement par des soutiens qu'on aurait dans nos réseaux, enfin familiaux ou autres, et les placer soit sur un compte, soit peut-être en votre étude pour leur montrer qu'on a en quelque sorte du cash, enfin.
On n'a pas, dans la proposition, on n'a pas évoqué un problème de dépôt de garantie, je ne me souviens plus.
Non.
Ça peut, dans ce sens-là, oui, ça peut être bien. Parce que, il est d'usage, en général, quand on signe un compromis, si vous voulez, de verser, normalement, 5% du prix. Les promoteurs ne le font pas, en général, mais ils fournissent autre chose qui s'appelle une garantie à première demande, c'est-à-dire qu'ils ont une banque, voilà, qui se porte caution pour eux. On n'a pas évoqué pour l'instant, et c'était volontaire, si vous voulez, le fait, parce que pour vous, sortir du cash, ce n'était pas forcément facile. Il faut quand même prévoir l'éventualité où on nous demande, le jour de la signature, de verser 5%. Ou de fournir une caution, ce qui sera pas. La caution, c'est pas la peine de la demander, si vous voulez. C'est compliqué, c'est difficile, c'est un peu complexe à mettre en place, surtout pour une structure comme la vôtre. Par contre, effectivement, mettre. Si vous, alors, ça fait beaucoup quand même, 100 000 euros. Hein, mais à la limite, placez-le. Alors, pas chez moi, ça n'a pas d'intérêt, parce que chez moi, ça sera non rémunéré, et j'ai pas le droit de le rémunérer, autrement qu'avec le placement de la Caisse des dépôts à 1%. Si donc, par contre, si vous pouviez ouvrir un compte au nom, alors, ou de l'association ou autre, voilà, mettre de l'argent dessus, le rémunérer, parce que autant que ça vous rapporte un peu d'argent, si vous voulez, hein, pour une fois, et ça sera pas mal. Histoire qu'on puisse justifier qu'effectivement on est prêt à sortir 100 000 euros tout de suite le jour où on nous demande. Voilà.
Et si on annonce qu'on en est au-delà, est-ce que ça peut plus les rassurer et peut-être faire la différence entre des offres équivalentes, mais il y aurait une autre offre.
Ça peut faire bien. Après, il ne s'agit pas non plus d'y mettre 1,5 million, quoi. Enfin, sauf si vous les avez bien entendus, mais voilà, c'est On peut, oui, effectivement, dire qu'on a du cash pour l'instant. Et je pense que ce qui rassurerait aussi, ça serait, on a évoqué l'accord de deux établissements bancaires où plusieurs j'ai dû mettre en stand-by. En réalité, vous m'avez dit que vous aviez l'accord de la Générale et que vous étiez en discussion avec le Crédit Coopératif. Si
voilà. Et en fait, donc, le Crédit Coopératif pourrait aussi nous suivre, mais c'est plus au conditionnel de la Société Générale. La Société Générale, c'est un mythe, mais de principe, hein, bien
sûr. Voilà, et si jamais. Alors, ça ne sera pas facile à obtenir, par contre. Mm-hmm. Mais si on avait déjà une espèce d'engagement de principe de la Générale ou un accord de principe marqué de la Générale, ça serait pas mal.
D'accord.
Ça, pour le coup, c'est sécurisant parce qu'ils savent que. Même si on n'a pas mis de conditions de prêt, parce qu'on pense aller au bout, c'est pas du monde, si vous voulez. On a effectivement, j'ai dit qu'on avait l'accord général, mais j'ai rien pour le matérialiser. Si je pouvais en justifier, quelque part, ça serait bien. Mettez pas sur un compte plus de 100 000 euros, si vous voulez, pas où. Ou mettez-y à la limite, si la banque vous dit, moi je vous suis, on est sur un prêt de. Vous avez un achat de 2 millions. Vous devez engager quelques travaux, j'imagine. Il y a un budget prévisionnel, si vous voulez. Il faudrait faire ressortir, je dis n'importe quoi, 400 000 euros de travaux. On est sur 2,4 millions. On a 300 000 sur un compte. On a un prêt de 2 100 000. Une espèce de budget bouclé, ça serait pas mal.
Oui,
voilà. Et donc, si on pouvait avoir effectivement une sorte de les grandes lignes d'un budget prévisionnel, une somme bloquée qui correspond à l'apport, finalement, de l'association, et un accord de principe de la banque, ça sera génial. Une lettre d'engagement de la banque qui dit qu'elle est prête à vous suivre. Bien sûr que ça reste soumis à plein de conditions, à la régularisation, plein de choses. Mais maintenant qu'on sait quand même qu'on va dans une direction qui est celle d'une société, hein, parce qu'on avait convenu l'autre fois, c'est plus simple pour la banque que de monter 18 crédits, par exemple, à titre individuel, à 18 personnes différentes. Quoi. Voilà.
Très bien. Ok. La réaction va pouvoir
chaque personne va faire son apport donc à l'association, est-ce qu'il y a des contrats d'apport qui sont assignés, quelque chose entre l'association et les personnes?
Moi, je pense qu'il faudrait mettre en place une espèce de petite convention entre les types, si vous voulez, en disant que dans le cadre du projet, les choulants et de l'acquisition, toutes les personnes qui le souhaitent sont appelées à déposer une somme sur le compte de l'association et que tout le monde signe pour savoir que c'est dans ce cadre-là qu'on a déposé. C'est pas une cotisation, c'est pas ça. C'est vraiment qu'on sache que c'est, que chacun le signe et qu'on mette sur la somme, ce document en question, le montant de la somme déposée par la personne. Quelque chose de simple, vous voyez ce que je.
Il faut que ce soit privé.
C'est vraiment un thème à l'association. C'est l'association qui, pour l'instant, est déposée sur un compte, les fonds qui vont être utilisés d'ailleurs, non pas par l'association mais par la société, ils sont mis en dépôt, ils sont constitués en réserve en quelque sorte pour la future opération et on demande aux gens de faire des dépôts sur le compte de l'association à ce titre là, donc il faut, mais je vous dis une page simple hein, que la même pour tout le monde, vous la photocopiez et tous ceux qui font un dépôt la signent et indiquent le montant de la somme et c'est contresigné par le trésorier, par le président, peu importe. Il n'y a pas de président, je crois.
Non, c'est
pas le trésorier. Il y a un trésorier quand même.
C'est aussi tournant.
C'est aussi tournant. Bon, alors vous mettez le trésorier du jour qui signe et qui confirme ça, si vous voulez. Histoire d'avoir une trace. Et puis ce document, vous faites en deux exemplaires, un pour la personne qui fait l'apport, un pour l'association. Voilà. Mais quelque chose de simple, vous voyez. Donc c'est en expliquant pourquoi on verse les fonds, c'est simple, c'est pour constituer une réserve dans le cadre de l'acquisition qui va être envisagée par la future société. Et puis les gens qui le souhaitent peuvent souscrire, ça sera déposé sur un compte à telle banque.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Ok.
Mais c'est pas un vrai contrat d'apport, hein. On n'est pas encore tout à fait là. Après, cet argent-là, voilà, on pourra l'utiliser, mais il reste à appartenir aux gens, si vous voulez, mais ils le mettent sur ce compte-là, quoi, pour le compte de l'association.
D'accord.
Oui, parce qu'après, ça permet à la personne de récupérer son argent.
Exactement. Si vous voulez. Ça veut permettre de l'utiliser dans un premier temps pour le compte de la société ou de l'association, si on en a besoin, pour la signature de l'avant-contrat, du compromis ou de la promesse de vente, si vous voulez, parce qu'on pourra mettre sur la table cette somme-là, qui sera la réunion de vos fonds personnels, en quelque sorte. Et puis après, dans la société, en fonction de ça, on fera ensuite, après, dans le cas des statuts, on peut prévoir effectivement cette somme comme un apport ou pas un apport, en fonction de ce qu'on va voir, ou plutôt un compte courant, d'ailleurs, ce qui me paraît plus logique, mais en fonction de ce qu'on
va
voir.
Voilà, ça
fonctionne
bien. Ok, très bien. Bon, pour la stratégie à venir, on a peut-être fait le tour, là. Donc on peut peut-être en venir si on
a... Ah ça ?
Voilà. Donc lors de la réunion d'hier, donc on a essayé de parler principalement ce dont on avait évoqué la dernière fois, c'est-à-dire avec quoi on veut ressortir, si on a un qui part de 5 ans, ou d'un ou 10 ans, ou 30 ans, enfin voilà, ces questions-là sur le plan économique. Et donc l'idée était, donc on a essayé pour... c'est un peu ce qu'on maîtrise le mieux, nous, on n'est pas du tout des professionnels, mais à force de lire des documents, ce que font les hôtels japonais, ce qu'on maîtrise le mieux, donc c'est le modèle SCI plus association, où vous avez transmis des exemples. Et donc on a essayé d'expliquer au groupe, en se basant sur ce modèle-là, en étant bien précis sur le fait que ce n'était pas du tout contractuel et que vous pouviez peut-être nous proposer d'autres choses, etc. C'était pour fixer des idées. Et donc sur ce principe-là, ce qu'on a appelé les mensualités, donc pour ne pas dire location, puisque loyer, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de loyer, pas de beau, mais disons que sur les loyers, il y a la partie charge, il y a la partie intérêt pour la banque, ou pour éventuellement des concurrents, des choses comme ça, et la partie réellement remboursement du capital. Okay? Et donc, enfin, si on ne se trompe pas, si on a bien compris. Et donc, ce que souhaiterait le groupe, c'est pouvoir récupérer le capital. Que ça soit une rémunération par mois, enfin, des mensualités.
D'accord. Donc, vous raisonnez, je vais essayer de synthétiser dans l'autre sens, vous raisonnez en disant voilà, finalement, les dépenses de la structure, pour ça, de la société, si vous voulez, vont être de trois ordres. On va d'une part rembourser un prêt, qui comprend du capital, qui comprend les intérêts, et on va payer un certain nombre de charges de fonctionnement.
Oui.
Voilà. Et chacun va devoir participer à cet effort, si vous voulez, de remboursement du prêt en capital, intérêt et au paiement des charges. Après, et finalement, chacun de nous, enfin de vous, va récupérer à la sortie dans son versement ce qui correspondait au capital, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, fondamentalement, ça me paraît à peu près jouable, à une condition, c'est de pouvoir, je ne vais pas dire forfaitiser, mais presque un peu. Les charges vont évoluer chaque année, si vous voulez. Vous allez partir avec un budget de fonctionnement qui va être affiné d'année en année, qui parfois va évoluer en fonction des travaux, etc. Il va falloir voir si chaque année vous adaptez le montant des versements, quel qu'il soit, à ce montant de fonctionnement ou pas. Ou est-ce que quelque part, vous mettez en place une sorte de cagnotte dans la société qui permettra de faire face aux dépenses, de lisser tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment chaque année, vous fonctionnez au plus juste? Ou est-ce que globalement, vous mettez un peu d'argent de côté pendant 2-3 ans, quand il y a assez, ben vous envisagez les travaux la quatrième année, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'à-coup et de coup d'accordéon. Vous comprenez ce que je veux dire au niveau des charges? Le prêt, c'est régulier, c'est échéance constante, on n'a pas de souci. C'est différent des charges. Si on fonctionne sur des montants réguliers, si vous voulez, on a, comme n'importe quelle structure, une sorte de budget prévisionnel, avec effectivement un budget à dépenser, si vous voulez, que ce soit en charge. Ce qu'on ne dépensera pas, on le mettra de côté pour l'année suivante, et on rembourse le prêt. Et puis après, on va répartir cette dépense entre les différents participants, si vous voulez, en fonction, et chacun, on pourra leur dire, bah, écoutez, dans ce que vous versez, il y a X de capital, il y a X d'intérêt, il y a X de charge. Par contre, si on le fait année par année, ça peut être plus sympa, mais ça va être plus compliqué, parce que ça veut dire que les versements vont changer chaque année, okay, que la proportion entre le capital, les intérêts, et surtout les charges va évoluer dans l'année. L'année où vous avez plus de charges, et ben le pourcentage de charges sera plus élevé, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est, voilà, sur le fond on peut dans les deux façons, si vous voulez. On n'aura jamais peut-être une adéquation pile poil, hein, parce qu'on sera toujours obligé de fonctionner sur un budget prévisionnel qui sera rempli ou pas, mais on se rapprochera quand même de la vérité, si vous voulez. Après, je pense pas, parce qu'il faut avoir conscience, on peut pas dire que chacun d'entre vous va verser un peu de capital, un peu d'intérêt et un peu de charge. Ça, c'est la société qui va les verser, d'accord? Et pour faire face à ces dépenses, la société va collecter des fonds en disant, voilà, dans mon budget, j'ai 60% de capital, 25% d'intérêt et 15%, je suis caricature, si vous voulez, mais voilà, et 15% de charge. Voilà. Et finalement, à la sortie, on va considérer que chacun, dans ce qu'il a versé, aura droit au remboursement finalement de 65% de ce qu'il a. Alors c'est pareil, au début, on va raisonner globalement si vous voulez, mais le problème c'est que chaque année, le montant du capital remboursé, au début il est faible, et après il augmente, et puis les intérêts, voilà. Donc cette proportion va changer d'année en année éventuellement, si vous voulez, parce que quand je dis 65% c'est au final, mais au début on est plutôt à 50-50 entre les intérêts et le capital, non, pas très loin, hein, au début du remboursement. Donc quelqu'un qui fait des remboursements, on ne sait pas à l'avance quand vont sortir les gens, si vous voulez. Donc on va être obligé de raisonner sur une base forfaitaire. Celui qui effectivement va sortir au bout de 6 ans, il va peut-être avoir un remboursement en capital qui sera supérieur à ce qui aura été remboursé effectivement en capital par la société.
D'accord.
Mais on n'a pas bien le choix, si vous voulez. On veut juste se placer un peu dans la pérennité quand même. Oui. Ah non, mais je ne trouve pas. Si, effectivement, je l'ai pas. Il y a. Donc la seule chose est là, c'est qu'effectivement la proportion capital-intérêt, elle varie avec le temps, elle n'est pas fixe. On peut la raisonner sur l'ensemble du remboursement, oui, l'ensemble de l'opération, mais il faut avoir conscience du fait qu'on va forcément travailler de façon forfaitaire. Hein. Et celui qui, comme je vous dis, celui qui partira au bout de 5 ans, il aura peut-être remboursé que 55% de capital et il aura avoir 65% de ses versements. Mais je ne sais pas comment faire autrement, ou alors chaque année il faut faire un compte exact.
Je pense que ça, ce n'est pas une grosse inquiétude, disons que ce que souhaite le groupe, c'est que ça ne soit pas comme quand on est juste locataire auprès d'un propriétaire et la totalité du loyer en fait est perdue en quelque sorte.
C'est ce qui me semble. Voilà. Il me semble que ce que vous voulez, c'est effectivement une forfaitisation sur la durée. Si voilà. Vous celui qui verse, il sait qu'il va récupérer 65% de son investissement,
voilà. 70%,
il va récupérer ça, après le reste, c'est de l'intérêt, c'est des charges, mais finalement, presque le plus important pour vous, c'est de fixer le montant de la somme récupérée à la sortie, si vous voulez. Là, on raisonne comme si c'était du capital, mais vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est que sur chaque versement, 60%.
Voilà, que les gens sachent que c'est un petit peu comme si ils accumulaient une petite cagnotte au fil des années, c'est pas complètement perdu comme dans une location.
Tout à fait.
Et que ça permettra, parce qu'il y a aussi beaucoup de ces inquiétudes-là, ça permettrait par exemple à quelqu'un qui, d'ici une fonctionnalité, qui a obligé d'acheter à Paris, d'avoir quand même un capital, enfin des
choses. Un capital pour, à investir.
Voilà, et qu'il soit pas, que ce ne soit pas à fond perdu pendant les premières années.
Oui, c'est juste en plus, quelque part, parce que tout le monde participe à l'effort. Donc, voilà.
Et ça nous paraît aussi logique de perdre des charges et de perdre les intérêts, puisque bon, c'est pas.
C'est la grande partie de l'occupation.
Voilà. C'est pas du tout choquant. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, mensualité. Et après, donc, on a aussi discuté hier de la partie, pour des sociétés investies, ça serait donc départ, enfin la partie, on va dire, potentialité de plus-value. Et là-dessus, le groupe, c'est plus compliqué. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. On a essayé de retransmettre un petit peu ce dont on avait parlé la dernière fois. Mais disons que le groupe a quand même une tendance à dire que ils ne souhaitent pas forcément récupérer la plus-value, enfin pas la totalité. Ils seraient prêts à renoncer à une partie de la plus-value s'ils peuvent être sûrs que ça ne soit pas pour que quelqu'un derrière eux la récupère à leur place, en quelque sorte. Donc un petit peu comme si juste moi, en tant que propriétaire, je vendais mon appartement là, actuel en dessous du marché en disant parce que je trouve que c'est pas bien que la spéculation immobilière, tout ça, c'est mal, et que je le vendais en dessous, mais que 2 ans plus tard, le type à qui j'ai vendu, leur vendre en faisant une pub encore plus intéressante. Quoi. Donc l'idée est là.
Je vois bien l'idée.
Après, c'est pas possible du tout. Mais il me semble qu'avec le montage d'association, on peut arriver à ça.
C'est humainement possible. Mais juridiquement, c'est impossible à écrire, si vous voulez. Humainement, le problème, c'est que vous ne pourrez faire ça que si vous avez cette espèce de conseil des sages que vous avez mis en place, là, les vieux choulans, ceux les plus anciens, si vous voulez, qui sont là, et qui, fondamentalement, sont les garants de ça. Mais ça veut dire que chaque année, on peut fixer chaque année le prix de cession des parts, de toute façon.
Oui.
Ça se fait, ça, régulièrement.
Oui, mais après, ce qu'on disait, c'est qu'en cas de conflit,
on peut toujours faire...
Mais si on a bien compris, par exemple, avec une association qui serait propriétaire de, au minimum, on va dire 51% des parts, ça réduit quand même le plus-value de moitié, l'un dans l'autre. Non, c'est pas ça.
Oui, ça va vous vendre moins de parts, mais après, l'évaluation par part reste... économiquement, mais bon, en quantité, quand vous vendrez votre appartement, finalement, vous vendrez que vos parts et vous aurez peut-être que, je sais pas, une dizaine de parts chacun.
Oui.
Parce que l'association, on détiendra la moitié.
La plus-value du CRL serait faible parce qu'elle porterait sur peu de choses.
Voilà.
Si on pense que l'association a la moitié, 51% des parts, il reste que 49% des parts en circulation, en quelque sorte. Donc, même s'il y avait une plus-value, elle serait faible.
Voilà. Donc, est-ce que c'est la seule méthode pour arriver à un truc qui s'approcherait donc de baisser cet aspect spéculatif?
Oui, ça peut s'écrire, il n'y a pas de souci. Après, comme vous l'a dit Marjorie l'autre fois, Je ne suis pas certain qu'un expert, qu'un tribunal chargé de désigner ou de fixer la valeur vous donnerait raison. Après, on ne peut jamais savoir. Un expert, à mon avis, valoriserait les parts à leur valeur réelle, c'est simple, c'est la valeur de l'immeuble moins le passif en cours, c'est assez réglé. Si ça allait devant un tribunal, normalement, le tribunal devrait fixer. Après, le tribunal peut quand même considérer que l'adhésion à la société et à l'association avait pour but une espèce de comment dire, l'adoption d'une philosophie générale qui nécessitait effectivement ce type. Je pense qu'un tribunal pourrait quand même vous donner raison sur l'affectation d'une part. C'est pas gagné, on peut jamais dire ce que va décider un tribunal. Mais c'est pas perdu d'avance. Autant sur une expertise, on est sûr d'avoir faux, parce que l'expertise, c'est la valeur du bien. Point. Après, un tribunal est quand même très sensible en général, au moins dans nos sociétés, à ce qu'on appelle l'affectio societatis. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les gens s'associent ensemble et se fédèrent ensemble, si vous voulez. Donc, je pense que le tribunal pourrait considérer que la philosophie générale de l'association est celle-ci et qu'effectivement, il est dans l'obligation puisqu'on y a adhéré et qu'on ne l'a pas caché, que les statuts sont clairs, que l'adhésion nécessitait une adhésion au projet aussi. C'est pas du tout perdu d'avance, surtout si le mouvement, ce qui est quand même probable, tend un petit peu à s'amplifier en France ou ailleurs, si vous voulez, et que ça devient un peu, qu'on en parle un peu. Moi, je pense que c'est pas perdu, je pense qu'on pense que vous. Hein. Sur l'expertise, non. Parce que vous voyez, l'expert, il est pas terminé. Hein. Mais c'est logique, c'est pas un reproche, c'est comme ça. Mais un tribunal, l'expertise va être un des éléments de l'appréciation. Ça ne sera pas le seul. Les statuts et la particularité de votre projet, à mon avis, sont quelque chose qui, pour lui, est parfaitement audible. C'est normal, c'est le premier cours de droit des sociétés, on apprend ça, si vous voulez, l'élément fondateur, c'est la raison pour laquelle les gens s'associent ensemble, ce qui les a réunis. Et si cet élément, c'est effectivement cette philosophie générale, je pense que le tribunal peut le considérer. Et à mon avis, pour être franc, on aurait même plus de chances qu'il le considère plutôt que qu'il passe à travers. Quoi.
D'accord. Ok.
Bon,
c'est positif.
Oui, non, je pense. Après, le problème, c'est d'harmoniser un petit peu tout ça, parce que si le but de l'opération, c'est de récupérer 65%, ça serait quelque part le prix de cession de la part, ça serait 65%, alors voilà, ça serait le compte courant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il faut arriver à s'interharmoniser.
C'est un peu ce que vous avez expliqué, soit le mettre en compte courant, soit le mettre en...
Même la grande partie.
Voilà,
tous les mois, vous pouvez le mettre selon les modalités en compte courant. Ce serait la partie capitale finalement qu'on pourrait récupérer et le reste, verser sous forme de loyer ou autre pour faire les revenus à la société qui paiera les charges et les intérêts. Mais prendre des comptes courants, c'est toujours le même, c'est que... la forme en courant qui va être faite va être utilisée par la société. Ou sinon, si une personne demande le remboursement de son compte courant, où la société va chercher l'argent pour rembourser ce compte courant.
Notre idée, est-ce que c'est possible, c'était que soit l'idée la plus mauvaise, c'est que la SI est obligée de se réendetter pour compenser. L'autre idée, c'était que, par exemple, si je sors au bout de 6 ans et que je réclame, logiquement, je veux récupérer mon compte courant. Le nouvel entrant, en plus d'acheter les actions, doit mettre sur la table le compte courant pour compenser.
Voilà.
Et la troisième option, c'était que, qui peut être aussi, ça pourrait être un mélange des trois, mais ça serait que les autres de la société qui, comme par hasard, il y en a un qui a eu un héritage il n'y a pas longtemps, ou qui a de l'argent à placer, mettrait plus sur son compte courant à lui. Pour rééquilibrer la totalité des
ça revient même que le premier en fait, parce que si on fait ça, c'est cette société qui va remettre du compte courant dans la société et la société va se réendetter à son égard.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est une décision peut-être plus sympathique. Hein,
ouais.
Et puis le rachat compte courant par
oui, je parle de l'entrant. Mais je ne parle pas forcément de l'entrant parce que vous évoquez l'hypothèse de. Vous partez légitimement, il faut que quelqu'un arrive pour vous remplacer. Si vous avez un entrant, le problème ne se pose pas, parce que son compte courant, c'est assez réglé, il vous paye votre compte courant, très bien, on n'en parle plus. Si par contre vous partez, mais qu'il n'y a personne, il faut arriver à trouver une solution transitoire pour que vous puissiez partir, vous avez votre argent, et d'attendre qu'un nouvel arrivant arrive, soit sélectionné, soit repéré, et voilà. C'est un peu ça la difficulté. Là, Il n'y a pas forcément de solution, comment dire. Il faut quand même arriver à régler ça assez vite. Si vous voulez que vous allez partir, vous n'avez pas forcément 6 ou 8 mois pour régler tout ça, pour trouver un nouvel acheteur qui vienne, qui fasse lui-même peut-être un prêt perso s'il y a besoin, etc. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être ça aussi. C'est-à-dire que,
le problème, voilà, hein, c'est que donc, plus ça va avancer, plus on va avoir des concours importants ou des parts importantes. Et donc,
qui font que les prochains entrants,
voilà, enfin,
pas les prochains, mais ceux qui vont rentrer dans 7, 8, 10 ans, voilà, ils vont avoir une somme à payer.
Plus considérable, voilà, ce qui nous embête aussi, parce qu'on n'aimerait pas que ça devienne un immeuble uniquement pour des gens qui ont vraiment des gros moyens. Parce qu'on part quand même là actuellement, bon, il y en a dans le groupe qui ont des moyens quand même assez importants, et il y en a d'autres qui ont vraiment des faibles revenus et des faibles apports. Et donc le fait de se mettre en groupe leur permettra d'y accéder, mais on n'aimerait pas que d'ici 10 ans, il n'y ait plus que des gens vraiment à des moyens élevés qui puissent accéder au bâtiment.
Oui, et c'est pour ça que vous serez peut-être obligé de mettre en place quelque chose avec du participatif, effectivement, parce que vous partez dans 10 ans, votre, les 60% des sommes que vous aurez versées, 65, ça sera pas tout à fait
nécessaire,
ça va quand même commencer à abuser un peu, et ceux qui vont rentrer n'auront peut-être pas ces moyens-là, si vous voulez. Donc il faudra qu'effectivement, c'est clair, après ça va être compliqué à gérer, parce que du coup, il y en a qui vont payer. Vous payez la somme, ce moment-là, dans le versement qu'ils vont faire, là c'est du capital en quelque sorte qui rembourse, c'est donc eux qui auront droit à ce capital de la sortie. Et puis un jour où vous aurez un gros capitaliste, si je puis dire, qui va sortir, ça va faire des ordres. Hein.
Oui, donc il faut qu'on arrive à prévoir tout ça.
Oui. Hein.
On évoquait aussi hier peut-être la possibilité d'avoir, donc, dans nos mensualités ou dans ce mail, d'avoir donc entre les charges des intérêts et le capital, d'avoir aussi une sorte de fonds de réserve où on paye chaque fois un petit peu de plus, ce qui permet soit bah, peut-être de l'argent bloqué sur au niveau de l'association ou enfin ou à un autre niveau, on ne sait pas trop, mais que ça permette aussi d'aider bah, soit quelqu'un à partir, hein, soit quelqu'un à rentrer. En lui faisant un prêt, quoi, mais ça serait un prêt en quelque sorte un prêt interne. Donc je ne sais pas si
c'est possible.
Ce qu'on
cherche le plus possible, c'est à se passer des banques, quoi.
Ça sent bien, oui.
Puisque on pense aussi que notre donc le capital, donc, si c'est en compte courant qu'il est placé, on ne cherche pas à avoir un taux d'intérêt qui soit de l'ordre de la pharmacie ou voilà. Enfin, c'est,
non, donc, il faut qu'il soit sur l'inflation.
Voilà, sur l'inflation, c'est ça l'idée. Sur le, voilà. Donc, ce qui veut dire que si on n'a que du compte courant et que du tout de banque, le projet dans son ensemble il est quand même gagnant puisque notre taux sera plus faible que le taux d'emprunt à la banque, le taux de nos comptes courants. Donc,
oui, il faudrait bien qu'on se projette un petit peu parce que dans l'avenir aussi, dans plus de 20 ans, quand le prêt sera totalement remboursé, quelle sera la situation? Il faudra pas des simulations quand même pour voir ce que ça fait. Parce que je vous souhaite qu'on en arrive là et que tout aille bien jusque-là, mais il y a un jour, effectivement, il n'y aura plus de prêts, ou il n'y aura plus de prêts lourds, si vous voulez, il y aura des prêts ponctuels pour des améliorations, etc. Et donc là, comment est-ce qu'on va tourner? Et parce que dans les versements que vous allez faire, il n'y a plus de remboursement en capital à réaliser, puisqu'il n'y a plus de capital à payer. Et pourtant, il est légitime que ceux qui payent quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va payer en ce moment-là? On verra plus que des charges.
Les charges et les intérêts de tout courant.
Oui.
C'est ce qu'on voyait.
Donc ça diminuerait beaucoup le fonctionnement.
Voilà. Le loyer, enfin l'équivalent loyer.
Alors, il y a une idée aussi qui a germé, ce serait d'essayer de sortir le bien du marché. C'est-à-dire, par exemple, par l'abandon de la plus-value, qu'il y ait un transfert de propriété quelque part, et qui permettrait ensuite à d'autres personnes d'arriver, enfin disons, de ne pas remettre ce bien sur le marché immobilier.
Par exemple, avec l'association, enfin, c'est un peu l'idée des projets qui sont faits ça.
Vous ne pouvez jamais le sortir, si vous voulez, parce que fondamentalement, personne ne pourra jamais empêcher que l'organe dirigeant de la société ou de l'association revende le bien, si vous voulez, ou la collectivité décide de le vendre. C'est-à-dire que le bien, pour qu'il soit pas sur le marché, il faut qu'il soit quasiment du domaine public de l'État, pendant ce qui n'est pas tout à fait encore même, mais c'est le bien qui soit invendable. Donc, c'est encore pas gagné, vous comprenez. En mettant dans la SCI, quelque part, vous l'isolez un peu. Vous l'isolez un peu parce que vous faites en sorte que la majorité des voix de la SCI, détenues par l'association, empêchent la vente. Et que la seule façon de rentrer dans ce bien-là, c'est d'adhérer, pas de rentrer dans la SCI, d'en acheter des parts. Donc, en gardant le contrôle de la SCI dans l'association, vous l'isolez dans le marché immobilier. Vous ne pourrez jamais le sortir complètement parce qu'il existe. Il existe et qu'en France, le droit de propriété fait qu'on peut survendre ce qui vous appartient. D'accord ? Donc, mais par contre, en le mettant dans la SCI et en bloquant les structures de contrôle de la SCI, notamment en faisant détenir 51% par l'association, en mettant dans l'association un pouvoir qui fait que on peut bloquer, quand même, verrouiller beaucoup le système, si vous voulez, parce que la SCI ne pourra jamais décider de le vendre si l'association n'est pas d'accord. Mmh. Par contre, il est vrai que si l'association décide un jour de le vendre, ben ça, on ne pourra pas l'empêcher, mais forcément, ça sera, il faut peut-être prévoir une décision à l'unanimité des membres de l'association, par exemple. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, il faudra se rendre à la vérité. Parce que si jamais il y en a un seul qui ne veut pas vendre, ça ne pourra jamais se vendre.
Oui, c'est bloqué.
Ça bloque tout. Si après tout le monde dit qu'il faut le vendre, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il y a une bonne raison, bah, tout le monde sera d'accord et ça sera vendu. Mais il faut une décision comme ça, je pense. Mais ça, c'est dans les statuts de l'association, parce qu'il faut le prévoir, que la décision de vendre le bien, etc., devra être prise à l'unanimité. Et si vous mettez 51% des parts de la SCI dans l'association, pas à l'association, pardon,
de fait,
ça veut dire que tant qu'un membre de l'association sera opposé à la vente, on ne pourra pas le vendre. Ça verrouille efficacement, hein, au niveau du marché d'achat garanti. Hein, parce que,
okay. Mais est-ce qu'il est possible donc ce transfert de propriété ou alors est-ce utile?
C'est pas un transfert de propriété, si vous voulez, le bien appartient à la SCI. Ouais. Et dans la SCI, je suis convaincu, mais si on part du principe que 51% des parts appartiennent à l'association, le jour où l'Assemblée générale de la SCI est convoquée, il y a tous ceux qui participent, l'association a 51% des parts. Et donc, elle a donc la majorité, et si ces 51%-là s'opposent à la vente, eh ben, on ne pourra pas vendre. Et si l'association, pour décider, pour prendre position, doit forcément avoir 100% des membres de l'Assemblée générale, d'accord, je garantis que ça bloque. Hein. Mais ce n'est pas un transfert pour qu'il y ait, le bien appartient à la SCI quand même. Hein. Mm-hmm. Ouais.
Bon, ça, je pense que ça nous conviendra.
Mm-hmm. En réalité, même si ça ne paraît pas, c'est très efficace comme blocage. Parce qu'avant d'avoir l'unanimité des membres de l'association, et puis quelque part, c'est même beaucoup, hein, parce que ça veut dire que le jour où il y a l'unanimité, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Si tout le monde est d'accord pour le vendre, mais c'est que, alors sauf à imaginer que vous ayez été noyauté petit à petit et que tout le monde s'est mis dehors et remplacé que par des spéculateurs, on n'est quand même pas là, vous comprenez, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais le jour où tout le monde dans la session est d'accord pour dire qu'il faut vendre, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Peut-être que le bâtiment ne vaut plus rien, qu'il y a une catastrophe, qu'il y en a un autre qu'il faut réinvestir, etc. Pourquoi pas, après tout, hein, mais vous ne pourrez jamais le sortir du marché immobilier parce que tous les biens, par tradition, en France, sont vendables à part ceux qui appartiennent à l'État. Du domaine public de l'État, et qui les servent, et encore même ceux-là, ça peut être vendu dans certains cas, hein, même ceux qui participent à l'œuvre du service public de l'État peuvent être vendus à condition d'une délibération spécifique. Donc,
Donc au niveau société, est-ce que vous avez pu...
On va essayer d'avancer un peu, Non, c'est ce que vous avez dit là, c'est pas mal, il faudrait que nous on fasse 2-3 chiffres ensemble, peut-être me mettre sur des simulations, voir ce que ça représente, si vous voulez, à quelle situation on va arriver, et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un sort dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un sort dans 3 ans ou dans 15, et qu'est-ce qui se passe une fois que tout le prêt est remboursé, si vous voulez. Après, il va falloir qu'on trouve, c'est un peu ce qui me chiffonne depuis le début, mais on l'avait déjà évoqué, il va falloir qu'on trouve un nom aux versements qui sont effectués par chacun, si vous voulez. C'est pas des loyers, on est bien d'accord. Je sais pas comment on va appeler ça. Après tout, vous êtes dans la SCI, vous participez aux frais de la SCI, donc pourquoi pas, ça c'est légitime. Hein. La SCI peut parfaitement appeler des sommes qui sont destinées à couvrir ses frais de fonctionnement. Ça ne me gêne pas trop. Mais après, il va falloir trouver comment chacun de vous occupe les locaux, autrement que par un bail. Et là, par contre, autant sur un juge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez optimiste sur le fait qu'il peut accepter parfaitement des clauses antispéculatives, si vous voulez, autant sur le fait de dire que tout ça n'a pas d'autre objet que de contourner la loi 89 sur la protection du locataire d'habitation, il peut être assez sévère, si vous voulez, en disant que finalement, les versements ne sont pas autre chose que du loyer dissimulé, et que les gens qui voudriez exclure la société, ben, le juge considère qu'il a un bail qui fait qu'on est obligé de le garder, vous comprenez ? Et ça, par contre, comme le juge a généralement un objectif de protection du consommateur et du plus faible, il peut effectivement arriver à considérer que tout le montage... Alors, ce n'est pas le cas, Mais on peut considérer qu'effectivement, montage n'a pas d'autre objet que de contourner la réglementation de 89 et d'éviter de mettre des voies en place. Et si on pouvait se prémunir un peu comme ça, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver à 100%, hein, mais c'est un objectif important pour moi parce qu'il ne faut pas que vous soyez à la merci de quelqu'un qui vous fâche, à qui vous dites eh ben, écoutez, on arrête là et tu quittes la maison et on te paye quelque chose. Mais si vous partez, qui va te dire non, moi j'ai un bail d'habitation. Bon, on sera malheureux, vous comprenez.
Une question par rapport à ça, si tout d'un coup, je sais pas, un tribunal, voilà, quelqu'un veut partir et c'est la guerre, enfin, ou quelqu'un veut le mettre dehors et c'est vraiment la guerre, il nous met au tribunal par rapport à ça, en nous disant, de toute façon, c'était les doigts de l'idée. Est-ce que dans ce cas-là, ça ne revient pas à si effectivement le tribunal reconnaît que c'était les doigts de l'idée, à ce qu'il perde la totalité de tout le capital qui est dans l'équivalent moyen? Puisque c'est localisé
si, en si, employé. C'est un argument qui n'est pas idiot, oui. C'est un argument qui n'est pas idiot du tout, ça peut se considérer. Le problème, c'est que si on va devant un tribunal après, on sera obligé de se battre avec un faisceau d'arguments, si vous voulez, et celui-ci, on fait partie, il est intelligible, effectivement. De considérer qu'il ne faut pas à la fois demander dire que c'est un loyer et demander dans la classe d'une somme. Voilà. Alors après, si c'est dans 10 ans, effectivement, le problème ne se posera plus parce qu'il a envie de récupérer une somme. Si c'est dans un an et demi, là, c'est plus délicat parce que la somme à récupérer sera faible. Et lui, il peut considérer qu'il a intérêt à rester là des années à même. Comme vous êtes une SCI, si on considère qu'il a un loyer, on ne peut plus le mettre dehors pratiquement parce que la SCI...
Au bout de 6 ans.
Même pas, parce que le bail d'habitation est effectivement d'une durée de 6 ans. Souvent, les seules choses pour reprendre un local d'habitation qui est loué, c'est le reprendre pour le vendre ou le reprendre pour habiter. Et dans la SCI, elle ne peut pas l'habiter elle-même, puisque, d'accord, c'est pas un particulier. Donc, le particulier peut dire, je reprends mon local pour l'habiter, moi, un membre de la famille. La SCI ne peut pas. Donc, la seule chose qui permet de délivrer un congé au locataire, c'est la vente.
Voilà.
Donc, c'est pas super pratique, si vous voulez. Alors, il faut faire des prières, effectivement. Ouais. Pour que dans les 5 ans ou 6 ans qui viennent, il n'y ait pas un clash comme ça avec un des participants. Au-delà, le problème se posera moins, parce qu'effectivement, les gens auront quelqu'un à rembourser. Mais il va se reposer toutes les fois que quelqu'un va rentrer avec un investissement faible et qui peut avoir la tentation, si vous voulez, de faire valoir ça.
Oui, parce qu'en fait, il y a une partie de ces loyers qui prennent l'apport vraiment d'un apport en compte courant, il y a une convention à chaque fois d'abord. Donc, il y aura quand même une partie de la somme qui sera quand même. On aura un accord juridique qui caractérisera.
Non, mais on a des arguments pour défendre. Mais
le loyer restera minime.
Ce qui m'inquiète, c'est que la loi 89 est d'ordre public. Et un tribunal peut toujours considérer que, si vous voulez, on a beau habiller ça de la meilleure des manières, il peut considérer que l'objectif poursuivi, c'était de tourner la réglementation sur les mots. Alors, c'est pas, enfin, c'est à la fois un petit peu vrai, mais pas complètement, c'est pas que ça l'objectif.
Mm-hmm. Il y a aussi une question qui a été soumise hier, et j'ai pas su bien y répondre, c'était sur les APL. Parce que donc, si on renonce à avoir des loyers, on renonce aux APL.
Ben oui.
Pour certains des participants, c'est quand même important. Et donc, moi, ma réponse, ça a été de dire, donc c'était Julien qui avait soumis ça, qu'en fait, il était plus intéressant, à mon avis, de payer un loyer sous forme de non-loyer, enfin d'équivalent loyer, mais dont on savait qu'on récupérerait une partie en capital, que de payer un vrai loyer, dont on aurait une plus petite partie qui serait réduite par la PLR. Mais il m'avait répondu à un contre-argument. Et là, ça me revient plus que c'était. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même, il faut bien y réfléchir sur est-ce que c'est réellement plus intéressant ou...
Fondamentalement, oui, parce que vous capitalisez.
Oui, moi c'est mon avis.
Si 60-65% de ce que vous versez, c'est pour vous, c'est quand même toujours plus intéressant. Alors, effectivement, il vous dit oui, mais l'effort de trésorerie est plus lourd, c'est là qu'il va être bloqué, si vous voulez. C'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'eux. Et puis, il va vous dire si en plus, moi, j'ai un versement très faible, la somme que j'ai, parce que je n'ai pas d'APL, donc j'ai des moyens limités, donc j'ai un versement faible, et la somme que je récupère à la sortie va être faible aussi, donc mon gain sera minime, si vous voulez. Il est vrai que si ses moyens sont faibles, son récupération sera faible, donc il n'y a pas de sortie de Bogotin, et c'est logique quelque part. Mais...
Il y a une chose à laquelle je pense aussi par rapport à la transformation en bail. Est-ce que si on met une clause comme quoi dans la SCI, tous les occupants sont propriétaires occupants?
Sociétaire occupant.
Et non pas. Oui, mais je pense que. Et puis c'est un principe, encore une fois, c'est ce que je vous avais dit une fois quand on s'était rencontrés, une SCI familiale qui est propriétaire d'une maison de famille ne règle pas ça par des loyers. Si vous voulez, chacun y va à tour de rôle, chacun l'occupe ensemble, en même temps, peu importe. Mais là, pour le coup, on ne maîtrise pas, encore une fois, on ne maîtrise pas un juge, si vous voulez. Si le juge considère qu'effectivement, l'objectif, son objectif serait d'être protégé, c'est n'importe quoi, mais celui avec qui vous fâchez, par hasard, il a trois gamins, ou c'est une mère célibataire avec trois enfants, il ne va pas hésiter longtemps, vous comprenez, voilà. Il va vous dire, bien sûr, votre système, c'est sympathique, c'est bien, mais moi, l'objectif, c'est que c'est fait qu'eux, ils restent et qu'ils soient protégés par qu'ils aient un toit, et qu'ils soient protégés par la réglementation sur les bons. Voilà. À tort, c'est vrai qu'il ne va pas respecter les philosophies, que c'est pas bien parce que c'est pas ce que vous avez voulu faire, mais il risque de dire ça. Et le risque, encore une fois, mettre dehors un couple avec des revenus importants, ça sera qui ne posera peut-être pas de soucis. Si on commence à toucher sur des personnes un peu plus âgées, sur des. Il y en aura au fur et à mesure, hein, faut pas rêver, des personnes âgées, des gens avec des familles nombreuses, un juge peut considérer que malgré tout ce qu'on a écrit, que malgré tout ce qu'on a dit, l'objectif c'était de contourner et que la réglementation sur les baux commerciaux, les baux, pardon, l'habitation s'applique. Pourquoi ? Parce qu'il y a occupation d'un local régulière, c'est pas comme une truc de famille où on y va ponctuellement. Là, les gens, ils sont tout le temps, ils y sont à l'année, c'est toujours le même local qu'ils ont, ils y sont depuis quelques années, depuis quelques temps, et qu'il y a un versement régulier. Voilà. Il peut considérer que c'est la simple réunion de ces deux éléments, l'occupation d'un local régulier et défini, et le paiement d'une somme régulière, fait qu'il y a bail d'habitation. Je vous dis pas qu'il aura raison, je vous dis qu'on va l'écarter.
Par contre, il y a aussi une chose à laquelle je pense, c'est que a priori, il y aurait des investisseurs. On va pas valider Raymond, mais on en parle tout le temps. Mm-hmm. Il y a des investisseurs. Donc, s'il y a des investisseurs, donc il y a location.
Non,
parce que les investisseurs, ils vont déposer de l'argent en compte courant. Alors, le problème, c'est eux, comment on va les traiter? Parce que eux, ce qu'ils versent, ils auront droit à la récupération d'intégralité de ce qu'ils ont versé ou une fraction simplement?
On n'a pas encore tranché ces choses-là, et on a aussi, il y avait aussi la question de savoir est-ce qu'ils étaient rémunérés au même taux que ceux qui habitent. Il y a des questions effectivement qui sont un peu.
Oui, parce que l'investisseur, j'imagine que dans votre philosophie, l'investisseur ne doit pas non plus tirer un profit important de
sa Donc il doit sortir un peu d'argent.
Voilà, alors je pense qu'il faut quand même qu'il récupère 100% de ce qu'il a versé. Oui. Voilà.
Et avec des intérêts pour pas ça dévalue son.
Voilà, avec la façon.
Nous, c'était un peu notre idée. Et après, on se disait aussi qu'entre le taux d'intérêt sans dévaluation et le taux d'intérêt des banques, si on trouve des investisseurs extérieurs qui seraient intéressés pour nous donner de l'argent, enfin prêter de l'argent à un taux intermédiaire, on pourrait aussi l'accepter.
Oui.
Voilà, parce que bon, ça serait toujours mieux que de passer par les banques.
On passe par eux, de toute façon, ce temps-ci, pas plus.
Donc, un investisseur, on peut rémunérer son compte courant.
C'est normal.
Donc ça, c'est normal. Donc ce qui fait qu'après, l'appartement qui...
Non, mais il serait juste un investisseur.
Oui,
il n'est pas associé à un appartement.
Il n'est pas associé à un appartement, d'accord.
Ce qu'on appelle un investisseur pur, si vous voulez, c'est celui qui, effectivement, sans avoir d'appartement, fait un apport important à la société. Alors après, là où ça se complique un peu, c'est qu'on peut concevoir aussi que parmi vous, il y en a qui occupent un appartement et qui versent une somme, une mensualité régulière, etc., et qui veuille faire un apport en plus.
Oui, alors ça, on a aussi évoqué hier, effectivement, parce que parmi nous, il y en a qui ont déjà assez de capital pour... en fait, ça serait l'équivalent de leur appartement, en quelque sorte. Et donc, a priori, s'ils achetaient un appartement là maintenant, juste à côté, ben, ils mettraient cet argent sur la table et ils n'auraient plus rien à payer, enfin les charges à payer. Mais donc, on est arrivé à... On a décidé, donc le groupe a décidé qu'il y avait une forme de solidarité au sein du groupe et que tout le monde payait cet équivalent loyer, qu'il ait fait un apport qui soit largement plus faible que l'équivalent de son appartement, ou même largement plus élevé. Donc, mais cet apport, de toute façon, on souhaiterait donc qu'il soit rémunéré, enfin c'est comme s'il faisait un placement en quelque sorte.
Oui, alors après la question sur ces gens-là, est-ce qu'on doit considérer que finalement leur mensualité va être limitée aux intérêts et aux charges, quelque part. Et là, la façon de créer, ils l'ont déjà fait.
Ben en fait, nous, on voyait ça comme le fait que quel que soit votre rapport, vous payez le même équivalent loyer. mais que dans ce loyer, donc, il y a la partie que vous capitalisez, bon, la partie intérêt, la partie charge, mais qu'après, en tant que, puisque vous avez mis de l'argent en compte courant, cet argent est rémunéré, et donc si ça se trouve, la rémunération que vous en touchez compense intégralement, voire même au-delà, ce que vous payez tous les mois. Donc, voilà.
Oui, parce que par contre, dans la logique de ce que vous dites, ce qui est très normal, c'est que celui qui fait ça, et dans sa mensualité, appelons-la comme ça, sa mensualité, il y a comme pour tout le monde 65% de capital,
voilà,
etc. Mais qu'il ait pu faire une espèce d'apport en capital par ailleurs, également rémunéré. On n'arrivera quand même jamais à faire à l'équivalence, enfin, marqué, ça dépend du montant du dépôt qu'il fait, mais la rémunération au taux de l'inflation, ça va être de l'ordre de 2,5-3%. Avant que ces 3%-là représentent la totalité de les 35 ou 45% de charges et d'intérêts, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Oui.
On n'y est pas encore, alors il faut vraiment qu'il fasse un apport lourd. Mais bon, en quelque part, lui, il aura un compte courant qui serait constitué de deux choses, l'apport initial qu'il a fait, et puis les mensualités, la fraction de mensualité.
Il le va accumuler sur ce compte-là.
Oui, en cas de revente dans les 4-5 ans à venir, je ne sais pas si c'est la meilleure, notamment pour le futur entrant, qui devra là sortir carrément le prix entier.
C'est là qu'il faudrait donc, voilà, que ce soit d'autres qui interviennent.
C'est là que ça va coûter cher, l'investisseur qui sortir.
Et ça, on ne souhaite pas, comme vous expliquez tout à l'heure, on ne souhaite pas non plus que les suivants soient obligés de mettre des sommes considérables. De toute façon, normalement, on ne voit peut-être même pas de suivants dans ce cas-là.
Mais les personnes qui ont déjà le capital veulent l'apporter intégralement ou ils ne peuvent pas le conserver eux sur des comptes personnels et finalement piocher dedans tous les mois pour les mensualités qu'ils auront à payer.
Disons que pour plus
élevé,
ouais, pour la société, et puis pour mon cas moi, ça serait vraiment dommage que je garde une partie de mon capital parce que mon salaire me permet déjà de payer le loyer sans aucun problème. Enfin, voilà. Donc actuellement, je mets un tiers de mon salaire de côté tous les mois. Donc, ce tiers-là, je pourrais tout à fait le mettre dans le loyer, et tout ce que j'ai déjà mis, tous mes tiers, là, passer tout mon capital, le mettre aussi dans la société.
En fait, le problème des investisseurs est exactement celui qu'on a évoqué tout à l'heure, de la période qui va suivre le remboursement du prêt. C'est une anticipation, si vous voulez. Mais effectivement, quand on aura plus de prêt à rembourser, tous les comptes courants seront là, ils seront lourds, et on va, l'investisseur, quelque part, c'est quelqu'un qui, effectivement, a droit à un remboursement qui ne correspondait pas à un prêt. Donc, il va demander de la part de ceux qui rentrent ou de ceux qui restent et qui veulent racheter sa part un effort assez considérable pour lui racheter sa fraction, si vous voulez. Vous mettez 200 000 euros, vous, dans l'affaire, par exemple. Et je ne suis pas certain que tout le monde, et que tous les entrants potentiels à venir, sélectionnés, etc., aient les moyens de mettre 200 000 euros. Alors après, est-ce que les autres vont pouvoir les mettre? Comme vous dites, ils n'auront peut-être pas l'autre solution dans ces cas comme ça que d'emprunter pour compenser, quoi.
Mais si on a fini l'emprunt à la banque, c'est peut-être intéressant que la SCI se réendette pour compenser ça.
Probablement.
Et que, puisque de toute façon, dans la partie mensualité, il n'y a plus il n'y a plus de capital de banque, il n'y a plus les intérêts de banque, il n'y a plus que les intérêts de, voilà, les charges et les intérêts de compte courant. Donc elle peut peut-être soit garder en fonds de réserve l'équivalent de ce qu'elle payait avant pour justement faire face à certaines choses, ou bien se réendetter.
Et se constituer une trésorerie pour pouvoir rembourser le compte courant de quelqu'un qui partirait.
Oui.
C'est possible aussi. Hein.
Voilà.
On va essayer de faire des simulations, voir comment on peut écrire ça.
Qu'est-ce que je veux dire? Sur l'ensemble des futurs habitants, est-ce qu'il peut y avoir des mensualités différentes? C'est-à-dire, chacun, les charges, ça, réparties au quantième de l'occupation par rapport au logement. Et puis, au niveau du remboursement du prêt, selon chacun ses possibilités, quoi.
Je pense qu'on peut, parce que dans l'autre, ce sera du compte courant, je mets ce qu'on veut sur le compte courant. On ne pourrait pas, si c'était uniquement des participations aux dépenses liées à votre participation au capital. Parce que d'abord, ça ferait participer l'association qui est propriétaire à 51% de part, enfin, qu'elle mette 51% des dépenses chaque fois, parce que ce ne sera pas forcément ses moyens. Par contre, si effectivement on traite comme du compte courant, ça ne me paraît pas, on fait bien ce qu'on veut avec le compte courant. Donc, Pourquoi pas? Après, il faut regarder pour qu'on ait quand même une certaine régularité dans cette affaire-là, quoi, et à quoi. Alors, comment vous. Ouais, il va y avoir une question importante, c'est comment vous avez décidé, sur quels critères, qui paye quoi. Puis il y a forcément quand même, qu'on le veuille ou non, il y a deux critères qui vont rentrer en ligne de compte. Un objectif qui va être la surface occupée, d'une certaine façon, et un deuxième qui va être les besoins et les capacités financières de la personne en question, si vous voulez. Hein,
Oui, et par là même, disons que moi ça, je reviens avec cette idée de bail ou non bail, c'est-à-dire si chacun a des modalités de paiement ou de remboursement qui sont différentes avec sur des critères différents, là il y aurait toujours autant de risques aussi de requalifier ça en tant que bail. Oui.
Comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a occupation d'un local et versement d'une somme, il y a un risque. Mmh. Voilà. On peut mettre en place tout un tas de systèmes, de mécanismes qui sont destinés à expliquer ou à compenser le fait que ça ne soit pas un loyer ou à etc. Très bien, vous ne pourrez jamais empêcher un juge de considérer que quelqu'un qui occupe un local et qui verse une somme, c'est un loyer.
Il y a une chose à laquelle je pense aussi, au niveau de s'il y a une association avec 51% de parts, quel sera le statut de l'association, parce qu'elle ne sera ni investisseur, ni occupant des lieux,
associée
simplement.
Ça sera peut-être la seule qui ne sera pas occupante, par contre.
Oui, mais est-ce qu'elle devra participer aux charges de fonctionnement ou pas?
Dans l'absolu, parce que vous voulez limiter aux occupants, finalement, les charges de fonctionnement.
Pour
que, enfin, nous, on arrive à écrire comment les
relations entre la société et les occupants d'immeubles. Mais c'est toujours ce même schéma que vous avez dit, les associés en gros, la société, et finalement l'immeuble et les occupants, là ils vont être également associés, mais le lien juridique pour le loyer et ses charges, c'est entre l'immeuble et la société finalement, c'est pas entre la société et ses associés. C'est vraiment les occupants qui vont. On trouve ce lien juridique. Donc, l'association, à partir du moment où elle n'est pas occupante, elle n'est pas dans ce lien juridique.
Il ne faut pas que la mensualité dépende de la participation capitale. Voilà. Il faut qu'elle dépende de l'occupation. En quelque sorte. Voilà. Et exactement comme pour un investisseur. Qui occupe pas, bah, il participe pas au charge, lui est là, il a versé une somme en capital et du compte courant, enfin en capital, c'est du compte courant qui lui est rémunéré. Donc quelque part ça tient à peu près la route si vous voulez, mais il faut qu'on arrive à l'écrire comme il faut, oui, et de façon pérenne. Oui, ce qui va se passer, parce que là on l'écrit, c'est tout beau, mais il faut toujours penser au problème qui va se poser dans 5 ans, quand il y en a un qui, pour de mauvaises raisons, va vouloir partir, et l'autre qui, pour de bonnes raisons, va vouloir partir, quoi. Et qu'on n'a pas forcément. On a quelquefois les entrants à mettre en face, on n'en a peut-être pas, ils auront peut-être les moyens, ils n'auront peut-être pas. Donc il faut imaginer un peu tout ça.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé que les investisseurs, eux, c'était un apport à la société.
Non, c'est ce que moi je veux dire, mais c'est un apport en compte courant.
Enfin, c'est un apport en compte courant. Courant.
C'est pas un apport en capital. Sinon, on comprend un peu, parce qu'on parle de remboursement de capital, etc. Mais c'est un apport en compte courant.
En compte courant, mais c'est peut-être moi qui ai mal noté. Donc, ce qui fait que nous, les futurs habitants, donc on sera sociétaire, parce qu'on aura au moins une part dans la société, et on fera un apport. Et cet apport, c'est la même chose, on sera au même niveau qu'un investisseur, ou ce sera
sur une fraction, c'est-à-dire que chaque. Alors, soit vous faites un apport individuel comme vous, parce que vous avez un apport capital, traité comme celui d'un investisseur, si vous voulez. Cet apport-là, dès le départ, ponctuel, vous versez une somme, c'est rémunéré au taux de l'inflation dans le compte courant. Ou, deuxième chose, en tant qu'occupant, effectivement, vous avez, à une mensualité, une somme à verser chaque mois, et qui, elle, comprend une fraction qui sera effectivement considérée comme vous étendu, comme du compte courant, à hauteur de 65% de ce que vous allez verser à peu près. Quoi.
Donc, notre apport personnel de chacun est un apport en compte courant au même titre qu'un investisseur. Donc à la fois on est et investisseur et occupant.
En quelque sorte, oui.
À la constitution de la société, il va y avoir un premier apport pour entrer au capital. Donc ça, soit il travaille à l'hiver entre chacun, c'est-à-dire que vous aurez l'association qui sera pour 51% du capital, et le reste sera réparti entre vous. Donc là, vous ferez tous un apport soit de 100, 2000 euros. Là, ça vous attribuera des parts sociales. Et ensuite, c'est les investisseurs aussi devraient avoir une part pour pouvoir être associés de la société, et ensuite faire des apports en compte courant, moyen de vos mensualités. Il y a deux apports distincts. Hein.
Donc s'il y a une association, l'association aussi devra apporter, non elle peut avoir une part, non
oui.
Vous allez peut-être avoir un petit capital social, où vous apporterez peut-être 10 euros et l'association apportera les...
Et l'association a un rôle extrêmement important à jouer. On l'a dit tout à l'heure, c'est elle qui peut finalement empêcher la vente du bien, et c'est elle qui va également, comme elle a 51% des parts, qui va agréer tous les nouveaux entrants. Avec 51% des parts, c'est l'association qui va décider qui est-ce qui rentre, parce qu'on va prévoir ce qu'on appelle une procédure d'agrément. Vous partez dans 5 ans, vous n'êtes pas remplacé par n'importe qui, il faut que la personne soit agréée par la, et pour être agréée par la collectivité, il faut avoir 50% des parts de la collectivité, ou 51%. Donc c'est l'association qui va tenir le contrôle de qui rentre et qui rentre pas. Donc ce qui va être important, au fondamental, philosophiquement, c'est le contrôle de l'association. Enfin, c'est elle qui va tout déterminer derrière.
Ok.
D'accord. On travaille là-dessus, j'appelle au téléphone vieille. Dès que j'ai une nouvelle, je vous tiens au courant. Soyez pas plus inquiet que ça pour l'instant. La seule contrariété, c'est que on a l'impression qu'on nous change les règles du jeu tous les 3 jours, quoi. C'est un peu ça qui est galère. Je pense pas que ça soit limité à, enfin, que ce soit, comment dire, en considération de votre projet, pas du tout, hein. Mais après, je vais essayer de savoir comment ça se compile.
D'accord, oui, ça fait bien avoir quelques,
tout à fait.
Quelques infos.
Exactement.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on avait émis aussi l'idée, peut-être, mais bon, qui n'est pas si idiote que ça, non plus, de proposer au SOBLA d'être notre partenaire financier.
Aussi, je vous parle de ça encore.
Est-ce qu'il y aurait une
possibilité... Vous pensez que c'est pertinent ou pas, c'est-à-dire que...
Qui remplace la banque.
Qui remplace la banque, voilà. Que plutôt que de rembourser, enfin, c'est-à-dire que la totalité du bien qui nous attend, enfin, les 2 millions d'euros... Et bien, qu'on a prêt de peut-être 1 million d'euros au départ et que le reste soit échelonné.
Un paiement à terme.
Voilà.
À mon avis, non.
Vous pensez que ça les intéresse pas, en fait, c'est plutôt mauvais, ça sera un peu sur la défaveur.
Oui, parce qu'ils vont considérer ça comme un paiement à terme, si vous voulez. Au lieu d'avoir un capital de 2 millions, ils vont avoir 1 million, puis après, ils auront une somme qui va tomber régulièrement, avec tous les risques que ça représente, d'insolvabilité par la suite, etc.
Oui.
Et par rapport au capital qu'ils auront tout de suite, qu'ils peuvent utiliser, s'ils ont besoin d'argent, parce que c'est comme ça, hein, que ce soit pour leurs œuvres, pour d'autres maisons, etc. En général, dès que, dans les grandes régions religieuses, dès qu'ils ont une maison, c'est pour en construire une autre ou pour en restaurer une autre. Donc, ils auront besoin de l'argent. À mon avis, ce n'est pas de même idée.
Okay, trop bien.
Ouais.
J'ai
oui.
Dire, c'est quand même une congrégation religieuse où les pères sont vieux. Hein,
comme toutes.
Donc, voilà, comme beaucoup. Donc, du coup, ah oui, peut-être après, il y a
comme tout, c'est justement leur problème, c'est le logement des pères âgés qui sont plus actifs et l'entretien des maisons de retraite où ils sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça le gros souci. C'est l'entretien, enfin, le faire vivre ces pères hein, qui n'ont aucun revenu, qui n'ont rien du tout, et qui travaillent dans des maisons le plus décentes possible. Donc, fondamentalement, c'est comme si vous disiez le promoteur vous donne 2 millions cash, moi je vous donne 1 million, mais la raison d'échelonne. Je pense pas, enfin, je
me
trompe, mais en général, quand ils réalisent un bien, c'est pour avoir du cash tout de suite.
Bon, de toute façon, ça, on pourra éventuellement, une fois le compromis fait, leur soumettre cette proposition.
Si vous voulez, pas avant. Pas avant, parce qu'il ne s'agit pas de se. Comment dire de se faire éliminer à cause de ça, quoi.
Oui,
après, on pourra leur demander si c'est intéressé.
Oui,
mais la réponse à 98%, je pense l'avoir.
D'accord.
Moi, ce que j'aimerais avoir des précisions que j'ai pas très bien compris par rapport sûrement à toi, c'est que si on imagine une société où on a tous une part, donc égalitaire, mettons, comme vous dites, on achète 10 euros, 100 euros, 1000 euros, peu importe, à la sortie, cette part, elle vaudra combien?
C'est la plus-value qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est ça.
C'est elle qui est évaluée et qui.
Chaque année, dont on fixera le prix. chaque année, pour de façon à ce qu'il ne soit pas spéculatif, si vous voulez. C'est chaque année, c'est le conseil d'administration de la société où, qui va fixer le prix de la part de la sortie. Mais bon, si vous avez qu'une part, c'est pas ça qui va faire, comme je le disais tout à l'heure, même s'il y a une plus-value, si c'est sérieux. Alors, ça ne sera pas, peut-être pas qu'une part, parce qu'on va être obligé de démultiplier un peu le capital, il y en aura peut-être 5, il y en aura peut-être 10, etc. Mais c'est pas ça qui va faire des sommes énormes, parce que ça va être, si déjà on a 51% du capital qui est dans l'association, et que vous avez que le reste, votre participation au capital, elle va être minime, si vous voulez. Donc, si vous avez.
Ouais. Alors, moi, il y a une chose que je comprends. Si, par exemple, aujourd'hui, bon, je mets 100 000 euros en compte courant, à peu près l'équivalent d'un appartement, hein, de 50 mètres carrés ou 40, je ne sais pas trop, n'importe. Donc, on va faire de l'amélioration, faire des travaux, des choses comme ça, mais par contre, il y aura toujours les 100 000 euros qui ne seront pas augmentés de la part des travaux. Et si, donc on a une part dans le capital, mettons 100 euros, si on revend dans 10 ans, mon capital, bon, avec les 3%, il aura augmenté un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Dans 10 ans, cet appartement sur le marché, il vaudra peut-être 200 000, hein, ou 150.
Et vous avez 110 ou 120.
Voilà. Donc, et ça, c'est.
Et sur ta part, tu n'auras pas touché grand chose à côté.
Non, parce que tu n'as pas.
Oui, donc
ce que c'est là, là, c'est le renoncement ou la spéculation.
Oui, mais là, c'est 100%.
Non.
Quasi.
Mais non, puisque de 100 000, tu es passé à peut-être à 120 000 ou quelque chose comme ça.
Oui, d'accord, mais c'est avec le coût de la vie.
Et le prochain pourra y accéder, peut-être pour. Seulement 120 000, alors que sinon, il sera resté à 150 000.
Par contre, il y a une chose dans ce que vous avez dit qui est très importante, c'est que vous avez évoqué le mot travaux. Là, il faut y faire attention, parce que dans la structure où on est, il n'est pas question que ce soit les particuliers qui, sur leur dernier personnel, aménagent leur propre appartement. Hein. Parce que sinon, on pose tout. Vous comprenez ? Parce que si les travaux, si la plus-value à votre appartement, elle est donnée par la SCI, c'est pas très grave, si vous voulez, parce que fondamentalement, c'est la collectivité qui va bénéficier de ça, c'est pas vous. Alors, si c'est sous vous, sur votre argent personnel, que vous améliorez votre appartement et que vous le faites passer de 100 à 150 000, là, c'est pas juste. Vous voyez, alors que vous récupérez 100 000 à la sortie, vous mettez 50 000 dans le truc, c'est pas très normal, quoi. Ou alors, il faut le traiter comme un apport, quoi, en concours aussi.
Oui, ça, c'est ce qu'on avait évoqué aussi hier, c'était l'idée que, effectivement, les matériaux, tout ça, ça soit traité par les CIS. Parce qu'on va quand même avoir beaucoup de travaux qui seront en autoconstruction. Donc chacun fera, mettra la main à la date. Et par contre, la question qu'on se posait, c'était surtout pour l'apport en temps, en fait, en fonction de vos disponibilités. Chacun a la tête qui vont travailler beaucoup plus que l'autre. Et donc, comment évaluer ça pour qu'il y ait quand même une forme de rémunération de ce travail.
C'est de l'apport en industrie, c'est pas gagné, hein, mais.
Ouais. Donc voilà, il y avait cette question-là.
C'est pas gagné parce que c'est très aléatoire et puis surtout dans les comptes financiers de la SCI, je pense que je mettrai en face. Si vous alors, mais, si on part revaloriser après le capital, en
voilà. Et il serait pas possible d'imaginer que quelqu'un qui, dont l'appartement qu'il est, donc il est juste occupant, puisque s'il n'est pas, enfin ses parts ne correspondent pas à l'appartement, mais l'appartement qu'il est occupant, s'il le revalorise énormément, bon, en sachant que la partie matériaux de cette revalorisation de toute façon est prise en charge par la SCI. Mais que sa participation à la revalorisation, au moment où il part, l'ensemble de la collectivité puisse dire bah, tiens, toi, tes parts, on va dire qu'elles valent un peu plus pour reprendre en compte.
Oui, c'est une sorte de rémunération de ce qu'il a fait. Quoi.
Voilà,
là, vous allez tomber sur le droit du travail. Ah,
on va avoir une revalorisation, parce que vous faites beaucoup de travaux, donc tout le monde, comme un corps, revalorise vos parts, conduit ses travaux. 6 mois après, un autre associé décide de vendre ses parts, il n'a rien fait dans son appartement, on sera obligé de tenir compte de la valorisation de vos parts.
Ah, d'accord, on ne peut pas avoir
la valorisation. Les parts ne pas, il faut avoir une différence de valeur pour vraiment qu'il y ait soit un problème, enfin, des faits juridiques pour justifier la baisse de valeur, mais sinon il faut que sur 6 mois, on ait quand même une distance.
Alors on peut lui verser l'indemnité aussi, hein, parce que à ce moment-là, on tombe juste sous le coup du droit du travail. Qui va considérer que sur une indemnité, vous allez payer une cotisation sociale, pour prendre la retraite, des choses comme ça. Donc, ça devient un peu compliqué là, si on donne le sentiment de contourner à la fois la cotisation sur l'ego et celle sur le.
Vous allez oublier les contrôles.
Voilà.
Là,
mais c'est un problème. Hein, c'est...
Il
va falloir
prendre un
la SCI peut embaucher.
Oui, avec un contrat de travail régulier. Ça, c'est possible par contre.
On peut s'embaucher, nous.
Voilà. Ça peut être une solution.
Mais après, donc,
mais avec les négociations qui vont avec et tout ça, la CI peut sans difficulté embaucher quelqu'un. Et embaucher un petit associé, ça ne pose pas de problème non plus si on respecte les règles. Surtout qu'il sera minoritaire, que vous marquez l'accord, on n'est pas en société commerciale. Donc, sur le fond, on peut, mais vous allez soumis à la réglementation sociale. Quoi. Donc, oui. Grosso modo, toutes les fois que vous dépensez 2000 euros, il y en a 1000 euros pour la personne, il y en a 1000 euros pour les caisses, quoi, de l'État.
Ouais, mais c'est-à-dire, et donc ensuite, si on a chacun un contrat de travail, tout ça.
Non, on ne va pas tout savoir.
Non, mais ponctuel, puis ça va coûter cher. Ça va coûter une fortune.
Mais
vous,
si
imaginez vous imaginez le coût des cotisations?
Oui, mais cette valorisation de la main-d'œuvre, à mon avis, il faut qu'on la voit autrement.
Je pense qu'il faut, enfin, à mon sens, il faut l'envisager uniquement pour ceux qui peuvent y consacrer. Et, du temps excessif. Il y a quelque part une participation normale, collective, de tous en dehors de son temps de travail normal.
Si voilà,
et après, il y a celui qui, effectivement, lui, il passe toute la journée parce qu'il n'a pas d'autre activité et qu'en plus, il a des compétences qui sont reconnues. Mais il ne s'agit pas que n'importe qui, parce qu'il n'a rien à faire, puisse être rémunéré par la SCI à faire des cochonneries, parce qu'il ne passerait pas bien non plus. Il faut être efficace aussi. Hein. Donc, mais on peut ponctuellement envisager de payer quelqu'un à faire un travail particulier, ça, c'est pas un problème, mais ça devrait être déclaré comme tel, quoi. Et ça vous règle un peu le problème. Mais il faut que ça dépasse la participation là, un peu comme chacun chez soi fait toujours un peu, moi j'ai passé mon week-end dans les collègues comme tout le monde, hein, et quand il fait mauvais.
Mais disons que la différence, c'est que quand, voilà, moi j'ai un peu refait mon appartement, mais le jour où je vais le vendre, je vais récupérer les fruits
de l'accord.
Puis là, vous êtes plus dans une situation comme des locataires qui investissent dans un
appartement, voilà.
Qui, au final, à la sortie, sont pas sûrs de.
Voilà. Mais un locataire, c'est vrai que parfois, il peut quand même négocier avec son propriétaire en lui disant
j'ai fait un aménagement, donc.
Vous m'embêtez le loyer ou vous m'offrez un loyer parce que je vais. Bon, c'est un peu des trucs au noir, ça.
Mais ça, vous pouvez le faire aussi un peu. Vous pouvez considérer qu'effectivement, la personne qui bosse pour la collectivité, elle aura une redevance mensuelle plus faible. Par contre, elle va moins participer. Si on fait ça, puisque ses comptes courants vont être calculés sur en fonction de ses versements, 65% de ses versements vont être faibles aussi. Donc son travail ne sera pas considéré comme une valeur de capitalisation. Ça va le diminuer.
Sur les charges, la partie charge.
Ouais.
Des fois, les syndics bénévoles chez notre propriété, ils sont, on les rémunère en leur faisant papier leur charge de copropriété, par exemple.
Oui, c'est un truc comme ça. En considérant qu'à ce moment-là, la somme qu'ils versent, c'est que du capital et que leur participation aux charges d'intérêt, c'est leur travail, pourquoi pas. Mais ça va être un peu.
Oui, c'est
vrai. On va avoir un comptable avec un gros ordinateur et une autre tête. Hein. Alors, surtout si vous tournez, il y a une charge qui ne sont pas dans les chiffres.
Ok. C'est bon ? On fait pas plus ou.
Mais j'ai notre rendez-vous là après.
Ouais, d'accord.
Il va attendre le cours depuis un quart d'heure.
Ok.
Ok. Je reviens vers vous très vite pour le fond vieil.
D'accord.
C'est plus urgent. Et puis, nous, on avance un peu là-dessus quand même, essayer de mettre un peu deux, trois choses en forme. Et puis, vous peut-être. Voilà, oui, exactement. Si vous avez une proportion peut-être à m'indiquer, comme on évoquait tout à l'heure, moi je vous dis ça un peu au pif. Mais.
C'est notre commission qui s'occupe de ça, mais je leur en parle.
Ça ne peut pas marcher, ça va, la commission.
Voilà. Mais effectivement, on a déjà les tableaux.